Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
Bonjour, Jean-Paul II est mort ce week-end. Il avait 84 ans. Depuis lundi, des milliers de fidèles affluent vers la basilique Saint-Pierre de Rome. Nombreux sont ceux qui guettent la dépouille du Saint-Père, renouvelant ainsi leur attachement à celui qui a profondément marqué son siècle. Ces dernières années, l'actualité nous a souvent renvoyé l'image d'un pontife léthargique, masquant le souvenir d'un personnage pourtant singulier. Depuis près d'un quart de siècle, il était à la tête du Vatican. C'est le pontificat le plus long du XXe siècle, sans compter que son origine polonaise a marqué un tournant essentiel dans l'histoire de l'Église de Rome, ses prédécesseurs ayant tous été italiens. Quel a été l'apport de Jean-Paul II à l'Église chrétienne de Rome ? Jean-Paul II est-il un pape réformateur ou attaché à la tradition ? Comment s'est-il positionné face aux enjeux politiques et diplomatiques de son époque ? Qui, parmi les cardinaux, lui succédera ? Autant de questions auxquelles je vous propose de répondre aujourd'hui dans Éclairage, en compagnie de Jean Foyer, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et fin connaisseur du pontificat de Jean-Paul II. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Je suis également ravie d'accueillir dans Éclairage l'abbé Jean-Robert Armogat. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci à vous.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et chargé de mission auprès du cardinal Lustiger. Votre réflexion sur l'Église catholique est donc extrêmement précieuse pour nous. Difficile en une heure, vous en conviendrez, de revenir sur l'ensemble du parcours passionnant du jeune Carole Wojtyla. Ce que je vous propose donc, c'est de commencer cette émission lorsqu'il devient archevêque de Cracovie, c'est-à-dire en 1960. Il fait déjà preuve d'une très grande habileté politique face au régime communiste polonais. On interdit à sa voiture de rejoindre Nowa Huta, il s'y rend à pied. Les dirigeants communistes veulent réquisitionner son séminaire, il se rend au siège du parti pour négocier. Que reproche-t-il aux dirigeants communistes et dans une plus large mesure au communisme lui-même ?
Eh bien,
Jean-Robert Armogat.
Lorsque Carole Wojtyła devient en 64 archevêque de Cracovie, il se trouve dans un pays qui a cette double identité, celle d'un pays polonais revendiquant son identité par rapport au reste de l'Europe et aux grands voisins russes, d'une part, et d'un pays pour qui le catholicisme se confond avec cette identité polonaise. Et la tradition, c'est que l'archevêque de Cracovie, la ville où sont ensevelis les rois de Pologne, la ville mémoriale, la ville sanctuaire, est celui qui est à la fois le chef naturel de son peuple comme le chef naturel de l'Église. Ainsi donc, après des sombres années, voilà que la nomination au siège de Cracovie de Karol Wojtyła est une coïncidence avec ces premiers moments où vacille le communisme dans le monde et en particulier dans l'Europe de l'Est. Et on peut dire que les premiers coups de boutoir furent en effet portés par Wojtyła au nom de cette double identité, polonais face aux Russes et catholique face à l'athéisme.
Quand il accède au pontificat, il prend le nom de Jean-Paul II. Ce qui est sûr, c'est que ce nom n'est pas choisi par hasard. Il témoigne en tout cas de la filiation spirituelle dans laquelle le nouveau pape entend inscrire son pontificat. Laquelle ?
Si je peux répondre, je crois que
Jean-Robert
le nom qu'un pape choisit reflète en effet souvent soit sa volonté, soit un ensemble. Lorsque Pie V, Ghislieri, a choisi de se prénommer Pie, alors qu'il aurait voulu s'appeler Paul V, car il avait bénéficié de Paul IV, alors que Pie IV l'avait particulièrement bloqué et l'avait expédié hors de Rome, c'est parce que Charles Borromée l'a convaincu qu'il fallait affirmer la continuité. D'une certaine manière, Jean-Paul II affirme la continuité de Jean-Paul Ier. Mais aussi, il affirme la continuité des deux autres prédécesseurs, Jean XXIII et Paul VI. Et d'une certaine manière, ce nom revendique la continuité des deux papes du Concile. Et Jean-Paul II, lui-même participant, efficace au Concile, affirme de la sorte la totalité de l'héritage, celui de Jean XXIII et celui de Paul VI.
C'est en 1978 que Carole Wojtyła succède à Jean-Paul Ier, qui décède après 33 jours de pontificat. Et ce n'est qu'au 8e tour du conclave qu'il est élu. Pourquoi, à l'époque, les cardinaux élisent-ils pour la première fois un pape non italien, Jean Foyer ?
Depuis plusieurs années, il y a une certaine évolution qui a voulu que le Sacré Collège fût moins à très forte participation italienne que la curie romaine s'internationalise, et sans doute a-t-il paru qu'il était un, qu'on entrait dans l'évolution qui était déjà en cours, en n'appelant plus au pontificat suprême nécessairement un cardinal italien, mais qu'on y appela un cardinal polonais qui y avait d'ailleurs, au cours des années précédentes, et notamment au cours des débats du Concile, montré une capacité exceptionnelle, une capacité intellectuelle exceptionnelle et un courage également exceptionnel dans son ministère, dans son pontificat à Cracovie. Comme vous avez noté qu'à l'époque, la plupart des hommes d'État croyaient que le communisme était définitivement enraciné en Europe, il ne faut pas dire que le futur pape Jean-Paul II était le seul à croire que le communisme était en train de s'en aller. Il y avait un autre homme d'État, ou non plus un homme d'État, sinon un homme d'Église, qui l'avait pensé un certain nombre d'années auparavant, c'était le général de Gaulle, qui a toujours dit qu'il considérait que la communisation de la Russie avait été un incident historique, mais qu'elle ne durerait pas.
Jean-Robert Armogat.
Je crois que le pari des cardinaux au conclave de 78 a été aussi d'élire quelqu'un qui n'avait pas l'expérience de la curie. Et ça, je crois qu'il faut en tenir compte si l'on parle de ce qui va se passer dans le prochain conclave comme le successeur de Jean-Paul II, car on parle beaucoup de personnes qui sont très impliquées dans le travail de la curie autour du pape. Il faut rappeler que, à la différence de ses prédécesseurs, Paul VI, Pie XII ont été des secrétaires d'État, Jean XXIII a eu des fonctions de nonciature. À la différence de ses prédécesseurs, Wojtyła est quelqu'un qui n'avait pas l'expérience de la curie romaine, et je crois que, expérience faite, ça peut-être été un bien d'avoir quelqu'un qui a su se montrer extrêmement libre par rapport à la curie romaine.
Une fois pape Jean-Paul II poursuit sa résistance spirituelle contre le communisme, résistance guidée, on l'a vu en début de cette émission, par l'expérience polonaise, il comprend qu'il doit mobiliser les forces vives de son pays, à commencer par l'Église catholique. Puis ce sera au tour du syndicat Solidarnosc dans les années 80. Le syndicat dirigé par Lech Wałęsa est activement soutenu par Jean-Paul II. Comment le pape parvient-il à atteindre ses objectifs en Pologne?
Jean Foyer. L'une des choses, ce à quoi le Solidarność lui a servi, c'est qu'il a eu, il l'a transformé en véritable force politique, en véritable parti politique, et il a en quelque sorte parlé en son nom dès son premier voyage en Pologne, où il a étonné tout le monde, il a même beaucoup surpris l'entourage romain qui l'accompagnait, et dont il pensait, et dont cet entourage pensait qu'il allait provoquer des catastrophes, et finalement, c'est au total sa stratégie qui a réussi et sa volonté qui s'est imposée. Bon, il faut dire cependant que les Polonais n'attendaient qu'une occasion de se manifester, car ils étaient vraiment excédés de la domination soviétique, et que le pouvoir communiste polonais lui-même n'était pas trop certain de sa solidité.
À l'extérieur de la Pologne, Jean-Paul II poursuit sa lutte contre tout ce qui s'apparente au communisme de près ou de loin. Il condamne notamment la théologie de la libération, fortement développée en Asie, en Amérique latine et également en Afrique. Cette théologie place les pauvres au centre des préoccupations de l'Église catholique. Que lui reproche Jean-Paul II et pourquoi le Vatican se montre-t-il aussi intraitable avec les partisans de la théologie de la libération? Jean-Robert Armogat.
Je crois qu'il conviendrait de rappeler deux choses. D'abord, que les premiers exposants de la théologie de la libération ont été encouragés par Rome. Ce sont des évêques, on pense à Dom Helder Camara, grand porte-parole de cette théologie dans le nord-est brésilien. Ce sont des figures de libération. On peut penser à Mère Emmanuelle au milieu des chiffonniers du Caire, à Mère Teresa, à Calcutta. Et puis, il faut savoir aussi que cette théologie de la libération a très précisément été reprise en main dans un contexte marxiste. Alors les choses ont explosé, un petit peu comme lorsqu'on mélange de l'hydrogène et de l'oxygène. Bon, les choses ont explosé lorsque ce contexte marxiste s'est saisi de ce qu'il y a de solidarité, d'appel à l'égalité, à la fraternité, au partage, dans le message chrétien. Et cela a été perçu déjà du temps de Paul VI comme les fumées de Satan dans la maison de Dieu. expression même du pape Montini, Paul VI, cela a été perçu comme une sorte de subversion interne du message évangélique. Il ne s'agit plus seulement de situer des attitudes politiques dans certains régimes d'Amérique du Sud, il s'agit de constater que le message chrétien, de l'intérieur, a été subverti par une imprégnation marxiste de lutte des classes. Alors, lorsque la libération légitime, que le christianisme qui a libéré les esclaves, qui a apporté au fil des années des amendements importants pour la promotion des peuples indigènes, pour l'inculturation du christianisme dans les cultures du sud de notre planète, lorsque tout cela a pu avoir lieu, on s'est aperçu que c'était positif, mais qu'il y avait la récupération intense de cette attitude en termes de lutte de classe et non plus en termes seulement de libération.
Jean Foyer.
Oui, mais je crois que Jean-Paul II n'était nullement en désaccord avec ce courant et qu'il aurait pu employer l'expression qu'emploie Bossuet dans l'un de ses sermons quand il parle de l'éminente dignité des pauvres dans l'Église de Jésus-Christ. Et il faut noter que, une fois l'attitude du Saint-Père a tout à fait changé à l'égard de ceux qui étaient représentés, paraissaient comme les défenseurs de cette théologie de la libération, à partir du moment où le système soviétique s'est effondré. Et d'ailleurs, il l'a dit, il a prononcé une parole comme ça, quand on lui parlait de la théologie de la libération de Saint-Denis, il ne faut plus m'en parler, elle n'existe plus parce que Marx est mort.
De nombreux observateurs internationaux estiment que la résistance de l'Église polonaise, soutenue par Jean-Paul II, a fait échouer en fait l'entreprise de normalisation du communisme à l'Est. Et d'une manière générale, en fait, ces mêmes observateurs présentent le pape comme un acteur privilégié de la disparition du communisme en Europe. Est-ce que vous partagez cette analyse tous les deux, Jean-Robert Armand?
L'Union soviétique a procédé à une glasnost politique avant de procéder à une libéralisation économique. Et en ce point, la faiblesse du système s'est très rapidement démontrée. Autrement dit, il ne faut pas oublier que, autant ou plus que ce que l'Occident a pu faire, les systèmes communistes d'Europe orientale se sont effondrés d'eux-mêmes sur des bases économiques. De toute façon, ce n'était plus viable. Il en va tout autrement, il faut le constater, de systèmes tels que la Chine, le Vietnam, où l'Église catholique est fortement persécutée, et où la libéralisation économique intervient avant la normalisation politique. Il y a là un décalage très important et des formes de survie du communisme qui veulent dire que vidé de sa substance économique, adapté à une libéralisation de marché qui lui permet de tenir le coup et de nourrir sa population et d'entretenir un commerce extérieur florissant, nous en avons des exemples tous les jours par le Grand Empire chinois, le régime de dictature et de déni des droits de l'homme qui existe à l'intérieur peut se maintenir longtemps puisqu'il s'appuiera sur une économie totalement transformée par rapport au credo marxiste. Alors, sur ce point, l'Europe de l'Est s'est écroulée parce qu'elle ne représentait plus rien. Il y a une sorte de tigre de papier, et la grande force du pape dans son intervention a été de dire « le roi est nu, le tigre est en papier ». Et je crois que les grandes démonstrations de chantier naval de Gdansk ont consisté précisément à montrer la vacuité, l'effondrement d'un régime que les lois d'exception ne parvenaient plus à maintenir.
On marque une courte pause.
Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves. Plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com. on retrouve Jessica Baudet.
Retour d'éclairage consacré au bilan du pontificat de Jean-Paul II en compagnie de Jean Foyer, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et de Jean-Robert Armogat, conseiller particulier du cardinal Lustiger. Le catholicisme polonais est un catholicisme plutôt rigide dans sa morale. Il est, comme on vient de le voir, à la fois ciment de la nation et âme de la résistance au communisme. Est-ce que cette appartenance au catholicisme polonais peut expliquer un retour à la tradition qui marque fortement le pontificat de Jean-Paul II? Jean Foyer.
Mais est-ce qu'il est bien exact de parler de retour à la tradition, comme on le fait, à propos des prises de position de Jean-Paul II? Il a maintenu un certain nombre de règles, de principes qu'il n'avait pas lui-même le pouvoir de modifier. Enfin, on a l'air, un certain nombre de personnes disant à certains égards, le pape était très libéral, à d'autres égards il ne l'était pas du tout, etc. Alors est-ce que maintenant on va changer ici ou là? Mais il faut tout de même se rappeler au départ quelle est la mission de l'Église. L'Église n'est pas une entreprise, un fonds de commerce qui cherche des clients. Elle n'est pas un parti politique qui cherche des voix à des élections. L'Église, elle a eu une mission qui est celle de transmettre le message évangélique et d'évangéliser les nations. Par conséquent, elle n'est ni la maîtresse du dogme qu'elle enseigne, ni la méthode de la morale qu'elle prêche. Et dans la mesure où on voit Jean-Paul II maintenir fermement les positions qui sont traditionnellement celles de l'Église, ben, il est tout simplement dans son rôle et il exécute la mission qu'il a reçue.
Jean-Robert Armogat.
Oh, je dirais seulement qu'il faut comparer Wojtyła à son prédécesseur Wyszyński, à son successeur Glemp. On s'en rend bien compte qu'il y a des gens qui, comme les deux, le prédécesseur et le successeur, sont très profondément conservateurs et ont des attitudes qui surprennent par rapport aux avancées du catholicisme. Et que Wojtyła est quelqu'un qui, dans l'épiscopat polonais, était déjà quelqu'un qui était ouvert par ses études à Louvain et à Rome, et qui était déjà ouvert par son travail de philosophe sur la phénoménologie, sur la pensée moderne, qui était déjà ouvert par son contact avec le monde du travail, son expérience personnelle en usine, par son contact avec les étudiants, avec toutes les forces vives de la nation polonaise. Et lorsque on a entendu dire « Ah oui, le pape polonais est conservateur parce qu'il est polonais », il me semble qu'on confondait deux choses. D'abord, comme le rappelait justement Jean Foyer, qu'on ne peut pas reprocher au pape de faire son métier de pape. S'il avait autre chose à dire, il ne serait pas pape, il ferait autre chose. Et deuxièmement, qu'on ne peut pas accuser ce pape polonais d'être réactionnaire parce que polonais, parce que précisément en Pologne, il n'a jamais été tenu comme réactionnaire. Karol Wojtyła était connu et considéré comme un prélat ouvert, plutôt précisément par ses interventions dans la constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, au deuxième concile du Vatican, comme un homme de l'avancée. Et il est certain que c'est ce choix qui a été déterminant pour les cardinaux du conclave de 78.
Alors sur le plan moral, de nombreux auditeurs connaissent son opposition radicale à l'avortement, à la contraception, au divorce et à l'euthanasie. Certes, la vie et la famille sont des valeurs fondamentales, mais est-ce que ces prises de position n'expriment pas le refus de l'Église de prendre en considération les évolutions de notre époque, Jean Foyer?
Bah, écoutez, je crois qu'il faut distinguer deux sortes de problèmes. C'est d'une part la prise de position à l'égard du péché, et d'autre part le comportement à l'égard des pécheurs. Mais non, pour ce qui est du péché et de la règle morale, on voit quand même difficilement le souverain pontife, quel qu'il est, soit celui d'hier, soit celui qui sera là demain, déclarer que l'avortement est une chose licite, alors que le décalogue dit « tu ne tueras pas », et dire que le divorce est une chose qu'il faut approuver, qui est dans la nature des choses, alors que l'Évangile dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, et ainsi de suite. Je crois que sur toutes ces questions-là, le pape a maintenu des positions qui sont traditionnellement celles de l'Église et qui lui sont imposées, qui lui s'est imposé par le livre même, qui est la Bible. Cela n'empêche pas de pratiquer la charité à l'égard de ceux qui sont en contradiction ou en infraction avec ses principes. Mais enfin, je ne pense pas que demain, vous trouviez un pape qui revienne sur des positions que Jean-Paul II a définies.
Alors, quant au problème du sida en Afrique, on l'a vu, il fait de la fidélité. Vous allez me dire que c'est la même chose, mais un moyen de lutter contre cette maladie qui tue quand même des milliers de personnes. Est-ce que, là encore, Jean-Paul II ne s'éloigne-t-il pas du message d'empathie dont est porteuse l'Église catholique ? Jean-Robert Armogat.
Les situations que vous décrivez sont des situations tragiques. Ce sont des drames, ce sont des situations d'échec. Échec de relations personnelles, échec aussi de notre civilisation planétaire. Et le message de l'Église ne consiste pas à proposer des solutions ponctuelles, mais à rappeler l'enseignement général donné de respect de la vie depuis la conception jusqu'au dernier moment. Alors, dit que le pape affirme que le meilleur moyen de lutter contre le sida, c'est la fidélité à un partenaire unique, ça me paraît être de l'ordre de l'évidence. Et contrairement à ce que les médias ont écrit, ça ne signifie pas pour autant, en tant que remède devant un moindre mal, le refus d'autres types de solutions. Mais il me paraît nécessaire que le pape affirme d'abord ce qui est le fondement même de la morale chrétienne et ne refuse pas, pour autant, on le sait, que d'autres solutions puissent intervenir à condition de bien garder présent ce qui est le premier fondement de la morale chrétienne, la fidélité à un partenaire unique. Et ensuite, eh bien, il faut tenir compte, comme le rappelait Jean Foyer, de la faiblesse des personnes, du péché des hommes, des difficultés de situation et de tout ce que une adaptation pastorale de ces grands principes peut permettre en face des situations dramatiques, tragiques que vous évoquiez.
Alors la mondialisation occidentale se développe et du coup le besoin de spiritualité se fait plus grand. Le message et la pratique évangélique peuvent être des éléments de réponse à cette quête spirituelle. Le pape l'a bien compris en rédigeant en 98 l'encyclique Fides et Ratio sur la foi et la raison. Comment la communauté catholique a-t-elle accueilli cette encyclique ? Jean-Robert Armogat.
Je crois que Fides et Ratio et l'encyclique qui l'a précédé Veritatis Splendor, qui sont deux ailes de même oiseau, si j'ose dire, ont été accueillis plus largement que par la seule communauté catholique. C'est l'ensemble de la communauté intellectuelle au monde qui a été interpellée par cette affirmation rare en termes de philosophie contemporaine, l'existence de la vérité et le rapport de la personne à la vérité. Il faudrait rappeler la figure d'un philosophe français qui s'appelle Michel Henry, qui est décédé il y a 2 ans, et qui, dans son évolution personnelle, était arrivé à une pratique de la foi catholique, mais surtout dans son évolution philosophique, a essayé de réfléchir, ce sont ses derniers livres, sur l'incarnation et sur savoir ce que ça veut dire quand quelqu'un dit « je suis la vérité ». Veritatis Splendor, c'est une étude suivie par Fides et Ratio sur le rapport de la personne humaine à la vérité et sa constitution comme personne raisonnable. Et je dirais que dans un monde qui est un monde souvent porté au délire, souvent porté à un certain chaos des idées, rappeler, ce qui pourrait paraître étonnant, qu'un chef religieux rappelle l'importance de la rationalité du discours. Autrement dit, pour être bref, le fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi.
D'après moi, les positions de Jean-Paul II sur le plan social ont été assez audacieuses. On sait que ce sujet est une des préoccupations majeures de son pontificat. Il a publié 3 encycliques sociales majeures, tout en condamnant les excès du capitalisme. En quoi son message social se démarque-t-il de celui de ses prédécesseurs, Jean Foyer ?
Je crois qu'il est. Ce serait plutôt la continuité qui me frapperait que la rupture avec ce qu'ont écrit ses prédécesseurs depuis Léon XIII.
Alors allez-y pour la continuité.
Il y a le point de départ de tout ce mouvement définissant ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église commence avec Léon XIII en 1890, s'est poursuivi avec Pie XI dans l'encyclique Quadragesimo Anno, a été encore développé par Paul VI dans Centesimus Annus. Il y a donc, dans ces préoccupations sociales montrées par les pontifes successifs, ce qui me frappe surtout, c'est la continuité. Et je crois que le rôle de Jean-Paul II est d'avoir plutôt ranimé, repris, redonné redonner force et vigueur à un courant qui précédemment avait été quelque peu abandonné. Finalement, avant, à la veille du pontificat de Jean-Paul II, pas grand monde ne parlait de la doctrine sociale de l'Église. Des institutions telles que les semaines sociales et autres avaient été abandonnées, et qu'au fond, Jean-Paul II a eu le mérite de ranimer tout un courant et de souffler sur un feu qui était en train de s'éteindre.
C'est votre avis, Jean-Robert Armogat ?
Je crois qu'une encyclique comme celle de 1981, Laborem Exercens, qui fait du travail un élément d'élévation morale, nous permet de rappeler, et les évêques français, allemands, nord-américains l'ont souvent rappelé, que le travail, l'emploi, le rapport à la production sont des éléments qui ne peuvent pas laisser l'Église indifférent à partir du moment où il s'agit de la personne dans sa totalité. Moi, ce qui me paraît tout à fait essentiel et en droit fil de la philosophie personnelle de Karol Wojtyła est que le pontificat de Jean-Paul II, dans l'ensemble, dans toute cette batterie d'encycliques, de textes, dans ces milliers de pages produites par Jean-Paul II, Jean-Paul II s'est intéressé à l'homme comme à une personne dans la totalité de ses besoins. Et je crois que ça, c'est certainement ce qui restera de l'œuvre monumentale de Jean-Paul II.
Alors pourtant, Jean-Paul II a nommé il y a 5 ans Michel Candessus à la commission Justice et Paix. Michel Candessus, c'est l'ancien président du Fonds monétaire international. Et il se trouve que cette commission Justice et Paix est censée veiller à une plus grande équité entre les hommes. Est-ce que cela ne paraît pas un peu paradoxal ? Jean-Robert Armogat.
D'abord, on pourrait dire que nul n'est plus désigné que quelqu'un qui connaît bien les mécanismes de la mondialisation que de pouvoir présenter un point de vue chrétien. En second lieu, je rappellerai qu'un des éléments les plus importants à l'heure actuelle du travail de M. Candessus porte sur l'eau, le fait de pouvoir donner de l'eau. Or, qu'est-ce que c'est que l'eau sinon la libération de la femme ? Il faut voir que dans le monde, plus des 2/3 des femmes consacrent plusieurs heures par jour simplement à aller chercher de l'eau. Et si ces heures pouvaient, pour ces filles, ces femmes, être consacrées à apprendre à lire et à écrire, ce serait une grande révolution mondiale. Et je crois que le fait que Michel Candessus est un des meilleurs connaisseurs de ces phénomènes globaux me paraît tout à fait important d'avoir quelqu'un qui est apte à proposer, comme il le fait, des remèdes de fond, qui ne soient pas seulement un badigeonnage, le moratoire sur la dette, le fait de remettre des dettes à certains pays, etc., mais qui soit le travail de fond. Et ça me paraît tout à fait essentiel de pouvoir respecter les grands engagements du millénaire qui ont été pris par les pays de l'OCDE, par le groupe des 8. Or, ces engagements, qui devaient être mis en place à partir de 2012, ne le seront pas avant 2030. Et l'un d'entre eux est que tout être humain dans le monde soit à moins d'une heure de marche d'un puits ou d'une source.
On se retrouve dans quelques minutes. Thank you. Retour de l'émission Éclairage consacrée au bilan du pontificat de Jean-Paul II, toujours en compagnie de Jean-Robert Armogat, conseiller du cardinal Lustiger, et de Jean Foyer, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. À l'instant, nous parlions de la préoccupation sociale que Jean-Paul II avait eue au cours de son pontificat. Un des éléments qui me paraît également déterminant dans ce pontificat, c'est son souci d'ouverture aux autres religions. Il y a eu des gestes symboliques forts, mais aussi des rencontres singulières, comme à Assise en 86 ou en 93. Quelle place l'Église catholique entend-elle occuper dans ce rapprochement interreligieux ? Jean-Robert Armogat.
Eh bien, il me semble que ce qui a été entrepris déjà depuis le pape Pie XII, poursuivi par le Concile Vatican II, mis en œuvre de façon si voyante, si spectaculaire par Jean-Paul II, consiste à affirmer le besoin du religieux dans la vie des hommes. Un besoin également partagé et qui est lié, pour rappeler un mot de Paul VI, au développement et à la paix. Le développement, disait Paul VI, est un autre nom de la paix, et c'est donc un besoin planétaire. Et c'est en ce sens qu'il ne s'agit pas d'une sorte de synthèse des religions, de syncrétisme, de mélanger un peu dans une sorte de vague sentiment religieux, à Assise, chacun a prié de son côté, mais de constater qu'il y a dans le monde des forces qui sont des forces de paix et que ces forces de paix sont des forces qui tendent à élever l'homme, sans pour autant négliger ses besoins, vers d'autres aspirations. Finalement, aspirer à la paix, c'est accepter de se détacher des besoins immédiats du quotidien et des luttes les plus fortes et les plus absurdes entre les voisins. Or, je crois que ce travail d'ouverture aux religions est indissociable d'un travail sur la paix et le développement. Nous le voyons à l'échelle planétaire avec le terrorisme, avec la montée de forces négatives, en particulier dans l'islam. Il me semble que la connaissance des religions passe avec le développement et la paix.
Jean Foyer.
Oui, quant aux initiatives que le pape a pris dans ce domaine, il faut quand même noter qu'il a fait preuve d'un très grand courage, car il se heurtait à l'incompréhension d'un certain nombre de ses propres fidèles. Il l'a d'ailleurs dit lui-même, je crois que parlant de la récolte d'Assise, de la rencontre d'Assise, il a dit un beau jour, cela nous a coûté Monseigneur Lefebvre. Mais il a ajouté, je l'aurais fait quand même.
Alors justement, cette ouverture aux religions est quand même marquée principalement par l'ouverture à la religion juive, longtemps considérée comme déicide, par les catholiques en tout cas. Est-ce qu'on peut expliquer justement cette ouverture par le fait que Carole Wojtyla ait vécu durant son enfance dans une ville dont un quart des habitants, je crois, étaient juifs? Est-ce qu'on peut expliquer comme ça cette ouverture, ou de toute façon elle aurait eu lieu, Jean Foyer?
Personnellement, il n'a jamais manifesté d'aversion à l'égard des Juifs, mais que les événements qui sont produits entre 40 et 45 l'ont déterminé à accomplir un certain nombre de gestes qu'auparavant aucun de ses prédécesseurs n'avait eu la pensée de faire, et qui probablement n'auraient pas été bien comprises de leur temps et bien comprises avant ce qui s'est passé entre 40 et 44, qui a quand même indigné l'immense majorité de la société humaine.
Jean-Robert Armogat.
Dans le testament de Carole Wojtyła, qui vient d'être lu, la seule personne nommée, en dehors de son secrétaire Stanislav Tchevich, c'est le grand rabbin Toaf, le grand rabbin émérite de la communauté de Rome. Et parmi les firsts, parmi les premiers moments qui marquent le pontificat de Carole Wojtyła, il faut rappeler son passage dans la synagogue de Rome, le premier pape à être reçu dans une synagogue. Et il faut rappeler, dans son pèlerinage à Jérusalem, ce moment si important en face du mur ouest, le mur des Lamentations, où, comme tous les fidèles qui s'approchent du mur, le pape a mis dans les fentes du mur, au pied du temple, un petit feuillet exprimant sa prière pour la réconciliation des peuples et pour l'idée que soit vraiment reconnu, approfondi, ce thème du judaïsme comme le frère aîné du christianisme.
Alors justement, Jean-Paul II a également eu des gestes d'ouverture très forts à l'égard des musulmans. Vous en parliez à l'instant, Jean-Robert Armogat. On se souvient de la journée de jeûne qu'il a fait coïncider à la fin du ramadan en décembre 2001. Quelle est la position de l'Église catholique face à l'islam, justement la plus récente des religions monothéistes, Jean-Robert Armogat?
Eh bien, il me semble en effet qu'il faut rappeler que dans la succession des religions monothéistes, le type de rapport n'est pas identique entre ces religions. Autrement dit, le christianisme reconnaît à l'égard du judaïsme une dette. Tous les textes sacrés du judaïsme sont des textes sacrés du christianisme. Il n'en va pas de même de l'islam, qui ne revendique pas l'héritage juif et chrétien de la manière dont les chrétiens revendiquent l'héritage juif. Même si souvent, le prophète lui-même disait qu'il arrivait au terme, qu'il était le dernier des prophètes, qu'il arrivait historiquement au terme, et on entend souvent cette revendication historique de la part de certains nombres de théologiens et de théoriciens musulmans. Pour le christianisme, l'islam représente des valeurs positives dans ses piliers que sont le jeûne, la prière et l'aumône, mais aussi des valeurs négatives qui se sont exprimées soit de façon théorique, par la mise sous le joug, sous le démit des populations non musulmanes, en particulier des juifs et des chrétiens, et également de manière historique par ce qui a été et qui reste tout de même la grande plaie de l'esclavage, en particulier en Afrique noire.
Cette ouverture aux religions est essentielle, mais on sait aussi qu'au préalable, ça suppose que l'Église catholique fasse son mea culpa quant à certains agissements au cours de périodes plus sombres de l'histoire. Si devant les protestants, Jean-Paul II s'est repenti pour la persécution de Luther ou de Calvin, et des deux d'ailleurs, je crois, ou si devant les Africains, il a sincèrement regretté l'esclavage, on lui reproche quand même bien souvent de s'attacher à condamner les conséquences sans pour autant remettre en cause les agissements de l'Église catholique. Qu'en pensez-vous, Jean-Robert Armogat?
Je crois que vous avez justement fait la distinction entre, dans la repentance, dans les actes de repentance que Jean-Paul II a multipliés, la demande de pardon, qui est une demande de pardon à Dieu, qui est le seul qui peut pardonner l'histoire, et les agissements. Il est un peu vain de vouloir refaire l'histoire. Et il est un peu vain aussi de vouloir à tout prix atteindre une harmonie. Le document commun sur la justification entre catholiques et protestants est un pas important, mais il reste des différences. Et c'est de ne pas faire hommage à Luther ni à Calvin que de penser qu'ils se sont séparés de façon radicale uniquement pour des choses sans importance. C'est bien parce qu'il y a une importance dans leur séparation que cette séparation est encore vive et douloureuse aujourd'hui. En revanche, le pape demande pardon à Dieu pour ce qu'il y a eu de violence injuste dans les décisions de recours à des situations et à des moyens qui étaient du reste fatalement ceux de l'époque, ce qui ne les excuse pas pour autant, mais qui permet d'en relativiser l'importance sans pour autant les excuser.
Sur le plan international, la diplomatie du Saint-Siège s'est largement amplifiée sous le pontificat de Jean-Paul II. L'homme, on l'a vu, est infatigable. Il est à la fois témoin, acteur de son temps. Il a à son actif plus d'une centaine de déplacements à l'étranger. En tant que chef d'État du Vatican, il s'est aussi positionné face aux autres chefs d'État du monde entier. Il a condamné la guerre en Irak. Il a même envoyé le cardinal Etchegaray, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auprès de Saddam Hussein pour tenter de calmer le jeu. En quoi cette mobilisation du pape est-elle essentielle pour l'Église catholique? Jean Foyer.
Premièrement, d'abord, je crois qu'il faudrait, excusez-moi de le dire, on m'a accusé de faire un peu trop de droit, mais le pape, agissant dans ces diverses circonstances, ne l'a pas fait du tout en tant que chef d'un État minuscule qui fait quelques 40 hectares, compris dans la ville de Rome, mais il l'a fait en tant que chef de l'Église catholique. Il faut dans ce cas-là parler non pas de l'État du Vatican, mais de parler du Saint-Siège, et d'ailleurs le corps diplomatique qui représente les États auprès du Saint-Père, c'est un corps diplomatique qui est accrédité auprès du Saint-Siège et non pas auprès de l'État du Vatican. Je crois que vraiment les interventions du pape Jean-Paul II dans la politique internationale ont été extrêmement heureuses et que dans les cas où il n'a pas été suivi, il faut regretter qu'il ne l'ait pas été. Le dernier exemple en étant celui de l'affaire d'Irak, dont les Américains, je pense maintenant, se mordent les doigts. Il a essayé d'empêcher cette mesure qui était tout à fait stupide, il faut le dire, et qui a abouti à des massacres qu'il était tout à fait inutile de faire. Bon, par conséquent, je crois que vraiment, depuis, dans la politique internationale, probablement aucun pape depuis Léon XIII n'avait eu une telle audience et n'avait été écouté comme l'a été Jean-Paul II.
Il a reçu d'ailleurs tous les grands chefs d'État qui ont demandé une audience auprès de lui pour avoir sans doute des conseils peut-être
d'ailleurs,
pour mener les affaires du monde.
Il faut remarquer que même ceux qui ne l'avaient pas suivi sont venus assister à sa messe d'enterrement.
On se retrouve dans quelques minutes. Troisième partie de l'émission Éclairage consacrée aujourd'hui au bilan du pontificat de Jean-Paul II. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Robert Armogat, conseiller du cardinal Lustiger, et de Jean Foyer, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous parlions à l'instant de l'implication du pape dans les affaires du monde. Il a également joué un grand rôle, en tout cas dans le conflit au Proche-Orient. Il a reçu à plusieurs reprises Yasser Arafat et Ariel Sharon. Dans ce conflit, le statut de Jérusalem, on le sait, est un enjeu de taille pour les catholiques, pour les musulmans et pour les juifs. Quelle est la position du pape à l'égard de la ville éternelle, Jean-Robert Armogat?
Oh bien, la position du Saint-Siège n'a pas changé depuis une cinquantaine d'années. Elle s'est modifiée. Elle s'est modifiée au sens où le Saint-Siège, dans les années 50, parlait de l'internationalisation de Jérusalem et parle maintenant de l'internationalisation des lieux saints et de leurs accès, ce qui évidemment diminue l'emprise géographique de la demande. Et cette demande est constamment refusée par le gouvernement israélien, qui assure être en mesure, lui, d'assurer la sécurité et la liberté des accès. Mais le Saint-Siège, la demande de l'internationalisation des lieux saints, qui sont des lieux saints chrétiens dans leur grande majorité, en dehors de l'esplanade du Temple, qui est un lieu très particulier pour les musulmans comme pour les juifs et aussi pour les chrétiens, moins important que le Saint-Sépulcre, que la basilique de Bethléem. Sur ce point, il faut reconnaître que la diplomatie du Saint-Siège, si elle n'a jamais varié, n'a pas remporté grand succès.
Sur l'Europe, Jean-Paul II avait également des idées claires. Le 29 mai prochain, nous sommes tous amenés en France à nous prononcer sur le traité de constitution européen, texte dans lequel le pape a souhaité que l'Europe n'oublie pas ses racines chrétiennes sans pour autant obtenir satisfaction. Que redoute l'Église catholique dans le fait de passer outre cette référence, Jean Foyer?
la position du souverain pontife était tout simplement que l'on voulut bien respecter une vérité historique évidente. Il est clair que la civilisation européenne a des origines chrétiennes. Et vouloir dire le contraire ou refuser de le dire n'est pas honnête du point de vue historique.
Jean-Robert Armogat.
Le Tempo, un journal italien, il y a quelques jours, intitulé un éditorial Jean-Paul II, l'homme qui a sauvé l'Europe des Européens. Et je crois que c'est bien peut-être ce que l'on pourrait dire. On se rappelle que Jacques Delors, à Bruxelles, a eu l'occasion de parler d'un supplément d'âme pour l'Europe et a invité les églises et les organisations humanistes, comme on dit, à se retrouver autour du Conseil de l'Europe. Et il faut penser aussi que le travail du pape pour les églises catholiques dans l'Est de l'Europe a consisté à ouvrir cette Europe davantage sur une réalité humaine, par-delà les nécessités économiques qui ont l'air souvent de l'emporter dans les considérations politiques. Et il me semble que le regret profond que Jean-Paul II avait de ne pas voir les racines bibliques de l'Europe reconnues dans le document tiennent aussi à la conscience qu'il avait d'avoir apporté, lui, une contribution essentielle à ce qu'on puisse aujourd'hui parler d'une grande Europe dont le centre se trouve quelque part sur le Danube ou sur la Vltava du côté de Prague et non plus sur le Rhin. Et je crois que cette grande Europe, Jean-Paul II y a largement collaboré et je pense que la postérité dira, comme le disait ce journaliste, qu'il a sauvé l'Europe des Européens.
Autre fait assez marquant pour le souligner, vous le disiez tout à l'heure Jean Foyer dans la première partie de l'émission, c'est quand même l'internationalisation du collège qui n'est pas propre à Jean-Paul II, du collège des cardinaux. Jean-Paul II a élargi ce collège aux Africains, aux Asiatiques et aux Américains, et aux Latino-Américains. Est-ce que cette internationalisation a apporté un renouveau dans l'Église catholique ?
Elle n'est pas encore achevée.
Jean Foyer.
Mais en tout cas, elle était tout à fait normale, si vous bien considérez qu'à l'heure actuelle, la majorité des catholiques n'est plus en Europe. Et dans ces conditions-là, il devenait paradoxal que le collège des cardinaux fût un collège qui soit composé au 4/5 d'Italiens. Il y a une internationalisation du Sacré Collège, comme il y a une internationalisation de la Curie. C'est la conséquence du déplacement du centre gravité, si j'ose dire, de l'Église catholique.
Durant son pontificat, Jean-Paul II a veillé à nommer la quasi-totalité des cardinaux électeurs qui auront pour mission d'élire son successeur.
Parce qu'il a été pape pendant 26 ans.
Oui, mais dans ses nominations, à quoi Jean-Paul II a-t-il veillé en particulier, selon vous, Jean-Robert Armogat ?
Alors, je dirais d'abord qu'il faut éviter de prendre le collège des cardinaux pour un parlement. Ce n'est pas un parlement, c'est historiquement l'assemblée des curés de Rome. C'est historiquement ceux qui, autour du pape, sont appelés à l'aider, à le conseiller. Et donc l'internationalisation, qui est un bien et qui permet d'apporter des éclairages de cultures différents, n'était pas du tout automatique. Ce n'est pas un parlement représentatif des catholiques dans le monde avec des pourcentages où les uns diront on en veut un peu plus, 3 sièges de plus. Deuxièmement, ce qui a été plus important que l'internationalisation, ça a été la nomination d'un très grand nombre de cardinaux résidents, c'est-à-dire d'hommes qui ont la charge des grandes métropoles dans le monde. Ce qui marquait la Curie, en particulier dans la première moitié du 20e siècle, était le poids des cardinaux dits de Curie, des cardinaux résidents à Rome, c'est-à-dire, si je me permets, Jean Foyer, des ministres du pape qui pesaient très fortement, ne serait-ce qu'en raison des communications de l'époque, sur les grands choix du souverain pontife et à l'occasion du conclave sur la désignation de son successeur. Bon, les choses ont changé pour des raisons de communication évidentes et aussi par le poids que représentent désormais dans le collège des cardinaux les représentants des grandes métropoles. Et il est évident que l'archevêque de Chicago, de San Paolo, de Rio de Janeiro, de Bombay, de Paris, représente la voix des catholiques de ces pays, alors que pour un certain nombre de raisons, pendant longtemps, c'était les cardinaux résidents à Rome et en charge de ce qu'on appelle les congrégations, c'est-à-dire les ministères à l'intérieur de l'Église catholique, qui avaient un poids prépondérant. Et je crois que le grand basculement s'est opéré dans l'importance acquise par les responsables des grandes métropoles mondiales, et pas seulement de Venise, Naples ou Milan.
Alors Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul Ier étaient italiens, Jean-Paul II était polonais, donc européen. On dit dans les couloirs du Vatican que le prochain pape pourrait être latino-américain. Parmi les favoris, on cite souvent le nom du cardinal colombien Dario Castrillon Hoyos, mais aussi des archevêques de Sao Paulo et de Buenos Aires, Claudio Humes et Jorge Mario Bergoglio. Cette possibilité vous paraît-elle envisageable ? Jean Foyer.
C'est très difficile. Nous n'allons pas faire ici, nous livrer à l'exercice du PMU et parier sur l'élection de tel ou tel cardinal latino-américain ou autre. Il nous est absolument impossible de faire le moindre pronostic. Je crois que ça n'aurait pour l'instant absolument aucun sens.
Mais les auditeurs veulent savoir.
Que le futur pape soit latino-américain. Je veux dire que ça ne me choquerait en aucune manière. Je vois pas pourquoi on jetterait l'exclusive contre un prélat sud-américain, mais ce qui se passera, je crois qu'il est impossible.
Est-ce que c'est probable ?
Il est impossible de le dire aujourd'hui.
Jean-Robert Armogat.
Je crois que les médias ont souvent tendance à confondre l'élection du pape avec celle d'un président de la République. Il s'agit pour les cardinaux de choisir celui qui sera le plus apte à conduire l'Église dans les premières années de ce nouveau millénaire. Et qu'il soit italien, allemand, sud-américain, chinois, importe peu. Et je crois que dans les circonstances actuelles, et c'est l'intérêt des congrégations générales qui vont se dérouler, c'est de pouvoir aider les cardinaux à choisir celui qui leur semblera le plus apte à gérer l'héritage wittilien et à ouvrir l'Église sur les nécessités et les besoins des sociétés contemporaines.
Alors, quels seront justement ces nouveaux défis auxquels le successeur de Jean-Paul II devra faire face ?
Le cardinal Martini a eu l'occasion de les rappeler. Il s'agit de la situation des laïcs dans l'Église, et en particulier des catéchistes, de ceux et celles qui ont la responsabilité de transmettre la foi. Il s'agit également des vocations religieuses. Les ordres religieux sont en crise, sont en baisse, à la différence du clergé diocésain qui est en hausse dans le monde. Il s'agit aussi de pouvoir répondre à la situation de la femme dans l'Église. Il s'agit aussi de pouvoir répondre aux besoins de l'Église en matière d'assistance aux malades, aux pauvres, à ceux qui souffrent. Et je crois qu'il y a là un enjeu extraordinaire pour une église planétaire et pour le milliard de personnes dont le prochain pape sera le chef désigné.
Jean Foyer, pour conclure émission.
Plus peut-être aussi d'arriver à normaliser la décentralisation qui a été amorcée par le Concile Vatican II,
en
1962. Qui s'est traduite par l'institution des conférences épiscopales, dont on peut penser qu'elles ne sont pas encore tout à fait au point.
Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission consacrée à Jean-Paul II et à son pontificat. Et aux auditeurs qui souhaitent en savoir plus, je vous recommande la lecture de l'ouvrage très précieux de Jean-Paul II, Mémoire et identité, publié chez Flammarion ce mois-ci.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.